Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Ismaili, journaliste citoyenne indépendante qui décortique depuis des années les narrations médiatiques dominantes, les subventions publiques aux grands médias, les opérations d'influence et les dérives du système informationnel français, avec plus de 40 000 abonnés sur X, et une bio d'ailleurs qui cite Camus en face de la marée montante de la bêtise, il est nécessaire d'opposer quelques refus. Elle incarne ce journalisme libre sans patron ni subvention qui refuse de se taire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche pas mal de monde. Qu'est-ce qui reste vraiment du journalisme quand la très grande majorité des médias français vivent sous perfusion des subventions publiques ou de grands groupes industriels, et face à une narration officielle qui semble de plus en plus verrouillée, uniforme et parfois déconnectée du réel, est-ce que ce sont finalement les citoyens, ce qu'on appelle les journalistes citoyens, qui portent aujourd'hui l'essentiel du contre-pouvoir informationnel? Ou est-ce qu'on assiste plutôt à une illusion de pluralisme pendant que le cadre narratif principal reste sous contrôle? Donc on va décortiquer ça sans langue de bois. Bonjour Ismaili, Amélie Ismaili, ça sera mieux. Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Non, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps qu'on ne va pas appeler Ismaili, ça me rappelle le lycée.
Pas comme ça que je vais vous appeler pendant l'émission, vous inquiétez pas.
Pas de problème. Amélie, je préfère mon prénom.
Eh bien écoutez, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Votre bio, comme je l'ai rappelé, cite Albert Camus et le refus face à la marée montante de la bêtise. Vous avez réagi d'ailleurs très vivement à l'annonce, je crois que c'était dans l'émission C'est dans l'air, titrée Epstein, la Russie veut faire tomber Macron, en soulignant qu'elle est financée par l'argent public. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce traitement et comment analysez-vous le fait que France Télévisions consacre une émission entière à cette thèse d'ingérence russe sans creuser les liens français documentés dans l'affaire Epstein?
Eh bien, parce que c'est choquant à plusieurs titres. Alors déjà, merci beaucoup pour la présentation que vous avez faite. J'apprécie beaucoup. Et merci de rappeler la citation effectivement que j'ai utilisée. Albert Camus a été, il est peu connu comme journaliste, mais ça a été un grand journaliste, Albert Camus. Et justement, c'est un journaliste qui critiquait déjà à l'époque ses confrères, notamment un certain conformisme. Donc, en plus d'être pour moi un écrivain de génie, au-delà de ça. Mais oui, ce qui est inquiétant, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une part de bêtise et il y a une part de conformisme dans ce qu'on voit actuellement, surtout à France Télévisions, parce que on a des gens qui sur France Télévisions a par exemple, en tout cas la chaîne France Info, a une espèce de slogan qu'elle n'arrête pas de répéter tout le temps, c'est l'information n'est pas une opinion. Elle nous rappelle tout le temps que l'information sur France TV s'appuie sur des faits, etc. Alors qu'on voit tous les jours que ce n'est pas le cas. Et là, c'est un cas d'école parce qu'il n'y a absolument aucun fait, je pense d'un fait au sens d'un preuve matérielle, qui relierait la Russie à cette soi-disant attaque informationnelle. C'est-à-dire, je dis soi-disant, puisque à partir du moment où on ne sait pas qui est l'acteur derrière cette diffusion du contenu, cette diffusion d'un contenu d'info. Alors, je vous rappelle, ceux qui écoutent, les auditeurs de Radio Courtoisie, je cherchais mon mot, qu'en fait, il y a eu un contenu qui est un site miroir de France Soir, donc le média France Soir, ce que vous connaissez, et qu'on salue et qui a fait un très bon boulot pendant la crise Covid. Qui a fait toujours un bon boulot d'ailleurs. France Soir, donc, il y a un site officiel, on a fait ce qu'on appelle un site miroir. Alors, c'est quelque chose qui existe, qui est courant dans les attaques cyberinformatiques. C'est-à-dire qu'on va copier un site, on va prendre tous ces codes, on va montrer qu'on va faire vraiment une copie de ce site. Et ils ont fait un françoissoir.net pour diffuser un article qui était complètement faux, avec un faux, mais qui était vraiment très, très grossier, comme quoi il y aurait des documents sur... Emmanuel Macron avec un message grossier de commander des enfants, enfin quelque chose d'assez affreux. Ce message a été diffusé par un compte, par plusieurs comptes sur les réseaux sur X, et avec une vidéo très très grossière, je dis bien grossier, de quelqu'un qui parle en plus avec un accent, donc pour bien entendre que c'est un soi-disant, pour laisser entendre que ça pourrait être un accent russe ou autre. Ce qui est absurde aussi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est absurde. Et ensuite, voilà, on a diffusé ça. Et immédiatement, je dis bien immédiatement, des ONG, une ONG qui s'appelle NewsGuard, qui est en fait un service qui ne s'occupe que de soi-disant combattre la désinformation en ligne et les ingérences russes, sans aucune preuve d'ailleurs. Eh bien, elle a alerté ça, et puis le service Viginum ensuite a alerté là-dessus. Et pourquoi je dis que c'est quelque chose d'assez curieux, parce que encore une fois, il n'y a pas de preuve que cette attaque, la diffusion de ce contenu pourrait être reliée à la Russie, et surtout l'immédiateté, la façon dont on l'a diffusé. M'a fait penser, moi, personnellement, à ce que ça pourrait être une tentative de ce qu'on appelle un faux drapeau, qui, contrairement à ce que nos anticomplotistes ont tendance à vouloir dire, ça existe et ça a toujours existé, et l'Élysée en a fait. Il y a des preuves que l'Élysée en a fait. Dans l'affaire Benalla, ils ont diffusé des faux contenus. Dans l'affaire des Macron Leaks aussi, ils ont diffusé des faux contenus en faisant croire que c'était relié à la Russie, exprès. Pourquoi ? Pour pouvoir les discréditer, pour pouvoir discréditer les vrais contenus. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de l'affaire Epstein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en tout cas, ça pourrait être une hypothèse, et je n'ai pas, voilà, moi je reste encore dans l'état d'hypothèse, attention, mais ça pourrait tout à fait, eh bien, l'Élysée qui pourrait. Eh bien, tenter de discréditer tout lien avec Macron, puisqu'il y a des vraies questions qui peuvent se poser. On a certains emails qui montrent qu'il y a eu une relation entre Jeffrey Epstein et Emmanuel Macron, qu'il y a eu des échanges apparemment, que Emmanuel Macron demandait des conseils. Alors, on pourrait quand même poser la question de savoir comment se fait-il qu'il posait des conseils à un pédocriminel notoire à une époque où on savait qu'il était déjà un pédocriminel. C'est-à-dire qu'on avait déjà de nombreux articles de presse, il y avait déjà des faits qui montraient une grosse partie de l'affaire. Donc, tout ça, je pense que c'est une manière, en fait, en diffusant, si vous voulez, tout ce narratif qui consiste à dire, à chaque fois qu'on va se poser des questions, à se dire, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a un lien entre Jeffrey Epstein et Emmanuel Macron, automatiquement, vous allez tomber sur des articles ou une émission de C'est dans l'air, etc., qui va vous expliquer, c'était une attaque russe. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi, moi, j'aurais tendance à poser l'hypothèse que ça pourrait être un faux drapeau. Mais encore une fois, c'est toujours possible que ce soit la Russie. Mais quoi qu'il en soit, que mon hypothèse soit vraie ou fausse, le service public n'est pas fait comme elle prétend le faire du journalisme, c'est-à-dire s'appuyer sur des faits, eh bien, elle aurait dû aborder un minimum de nuances en disant, on rappelle qu'il n'y a pas de preuve que c'est une attaque provenant de la Russie, on n'a aucun élément qui permet de le savoir, pourquoi pas en discuter, mais il n'y a absolument aucune preuve que la Russie, dans le cas de de la diffusion de ce contenu faux, on n'a aucune preuve que la Russie serait derrière. Et ça serait faire du journalisme. Et quand on nous parle toute la journée de gens qui veulent nous traiter de complotistes parce qu'on ne s'appuierait pas sur des faits, c'est ça, hein, le complotisme qu'on nous reproche, ça, c'est de nous dire qu'on s'appuierait sur des théories qui n'appuieraient sur aucun fait. Alors que bon, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de faits sur lesquels des théories du complot se sont avérées vraies. Voilà, de dire ça et derrière d'avoir toute cette propagande de France TV, mais pas que France TV, et beaucoup de médias qui vont vous dire que c'est la Russie, eh bien, ces journalistes-là, ces médias-là, ils participent à construire, qu'on le veuille ou non. Quand bien même ça serait la Russie, l'Élysée fait de l'opportunisme avec ça. Voilà, dans tous les cas, c'est un opportunisme. Je reste persuadée, j'ai pas honte de le dire, je reste persuadée que cet opportunisme, il est calculé et qu'il était préparé. Mais dans tous les cas, Il y a un opportunisme qui est fait et France Télévisions participe à cet opportunisme. France Télévisions, qui est payée avec l'argent des Français, n'est pas censée être un organe de propagande du pouvoir en place. C'est interdit normalement dans ses statuts. Donc il y a un vrai problème avec ça. Et d'ailleurs, il faut remercier, je passe du coq à l'âne, mais le député Charles Lalong, qui n'est pas forcément dans un parti politique avec qui je suis forcément alliée, mais le député Charles Lalong fait un excellent travail
Travail, ouais.
là-dessus, il faut vraiment le dire. J'espère que dans votre émission, vous aurez peut-être l'occasion voilà, peut-être de l'inviter, ou en tout cas, mais je pense qu'il fait vraiment un travail formidable
On l'a
et
déjà
dont on
rappelé,
devrait
hein,
parler
ouais.
plus, on devrait en parler plus souvent. Voilà.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et vous critiquez, Amélie, régulièrement les médias traditionnels hein, pour leur rôle dans la protection des élites, avec justement les récentes publications de documents sur Jack Lang, alors que ce soit les liens offshore avec Epstein et sa fille. Pensez-vous que l'on assiste à un lâchage contrôlé de Lang, comme vous l'avez suggéré en réponse à, je crois, Béatrice, pas je crois, Rosen, pour protéger d'autres figures plus hautes placées. Comme c'est une émission courte, et je précise à nos auditeurs qu'on vous recevra la semaine prochaine également, vous avez partagé d'ailleurs un long thread hein, rappelant le passif très lourd de Jack Lang, hein, tribune de 1977, l'affaire du Corral, Rosella Hightower, l'arrestation à Marrakech en 2001, Villa Majorelle. Bon, pourquoi selon vous, ce sera deux questions comme ça, les grands médias évitent-ils systématiquement ce contexte historique quand ils couvrent les dernières révélations et quel impact cela a-t-il sur la confiance du public?
Alors, il y a plusieurs réponses à ça.
Ah ben...
Il y a plusieurs questions dans votre question,
Tout à
vous
fait.
l'avez dit vous-même. Pour parler des questions de, est-ce que je commence par la première, donc lâcher Jack Lang. Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai tendance à penser, parce qu'en fait, si vous voulez, Mediapart, je pense qu'ils font un excellent boulot sur certains sujets. Je vous le dis. Mais Mediapart, je pense qu'ils sont aussi, voilà, qui très souvent, ils ont tendance à travailler, voilà, à sortir des sujets au bon moment, à des moments qui peuvent arranger le pouvoir. Et là, je me suis posé la question par rapport à. Je ne dis pas que Fabrice Arfry, parce que je pense encore une fois que Fabrice Arfry est un bon journaliste, donc je n'ai pas envie de l'attaquer ou de lancer des rumeurs sur lui ou quoi que ce soit. Par contre, clairement, sur Monsieur Plenel, je ne m'avancerai pas, mais j'ai beaucoup plus de critiques. Mais voilà, je veux pas, voilà, attaquer des gens qui, bon, ont quand même sorti, en tout cas, de trois affaires sur lesquelles d'autres médias ne l'ont pas fait. Et dans ce cas-là, effectivement, Jack Lang, je veux dire, ça faisait quand même un moment qu'on en parlait sur les réseaux sociaux. Il y avait quasiment pas, c'était silence radio dans la plupart des médias pendant 48 heures, silence radio dans tous les médias sur ce sujet. Effectivement, Mediapart, et c'est tout à leur honneur, a été le premier à parler de ce sujet. J'ai tendance à, oui, à le penser. Pourquoi? Parce que il y a quand même énormément de noms dans ces fichiers. Et puis, il y a des noms qui peuvent, voilà, encore une fois, attaquer plus le pouvoir. On a par exemple, je suis étonnée, moi, que M. Arfi, qui a quand même travaillé sur une grosse affaire liée à Sarkozy, n'ait pas parlé plus de ça de M. Olivier Courmel, quand même
Tout
des
à fait.
échanges, voilà, extrêmement beaucoup plus tendancieux que les échanges que les échanges entre Monsieur Epstein et Jack Lang et Caroline Lang.
Langue.
Ce qui est donc oui, je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a eu une tentative de lâchage. Je suis pas sûre que ce soit que c'ait été la thèse au début. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse propagande derrière le lendemain avec. Il faut sauver le soldat Jack Lang. Et c'est d'ailleurs d'où, c'est comme ça que j'ai appelé le trait dont vous
Tout à
citez,
fait.
qui me permet de passer à la seconde, la question que vous aviez après. C'est-à-dire qu'on a eu tout un tas de médias qui nous ont fait des vidéos, avec des interviews. Ils sont passés toute la journée. Alors je pense qu'ils ont. Bon, Jack Lang et sa fille sont un peu dans le gratin du tout Paris. D'ailleurs, c'est assez. C'est malheureux et triste, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'ai pas de mots pour le décrire. Mais on apprend aussi que ce sont des pique-assiettes assez impressionnants. Hein. Monsieur Jacques Lande a des impayés de partout. Là encore, il y
Tout
en
à
a
fait.
encore un qui est sorti d'un traiteur libanais qui n'a pas payé, dont il n'a pas payé les notes pour 40 000 euros. Enfin bon, on écoute des trucs complètement hallucinants.
Amélie, rappelons aussi qu'ils ont démissionné tous les deux, puisque j'apprends que sa femme vient de
Oui, alors
démissionner
Jacques Lang,
également.
oui, Isa. Alors Caroline Lang a démissionné immédiatement après l'article de Mediapart. D'ailleurs, elle a répondu aux questions de Fabrice Arfi
Tout à fait.
immédiatement. Hein. Et donc elle a voilà. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'était un petit peu voilà qu'elle que c'était un peu ce qu'on appelle de la commune. Moi, en fait, pourquoi je suis un peu complotiste, hein, je peux me permettre de le dire. Moi, j'ai travaillé dans la communication de crise. Donc, la communication de crise, on est complotiste parce qu'on utilise des stratégies médiatiques pour répondre, voilà, pour répondre à ce genre de problématiques. C'est-à-dire, vous retrouvez, il y a une affaire. Alors moi, heureusement, et d'ailleurs, sinon, je ne ferais pas ce métier, je ne serais pas là avec vous. Je n'ai jamais eu affaire à une stratégie qui consiste à mentir pour des gens, pour sauver des gens qui ont fait des choses effroyables. Mais voilà, dans des très grands cabinets de conseil, c'est notoire, vous avez des systèmes de ce qu'on appelle la communication de crise, et parfois dans la communication de crise, on fait ce qu'on appelle du damage control. Alors, j'utilise le mot anglais parce que c'est malheureusement dans ces stratégies-là, c'est souvent des références en anglais, mais c'est ce qu'on peut traduire ça par une stratégie de limiter les dégâts. Et donc, limiter les dégâts, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans une des émissions
Exactement,
avec vous,
c'est ce que je l'ai rappelé.
ça consiste à montrer un petit morceau d'un, c'est-à-dire on va avouer, on va, comment dire, j'allais dire se confier, on va avouer une partie de nos mauvais comportements pour montrer qu'on fait preuve d'humilité. C'est ça la technique, hein, c'est faire preuve d'humilité sur une partie, et puis derrière, comme ça, on permet d'étouffer tout le reste. Or là, voilà, Caroline Lang, en gros, c'est un peu, j'ai découvert qu'il y avait un fonds offshore, je ne savais pas, j'ai immédiatement démissionné, etc. Et je pense que derrière, ça évite qu'on parle de tous les autres faits qui sont autour de Jacques Lang. Et là où je pense que cette stratégie, elle a raté, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un tas il y a une propagande, etc., ça a complètement échoué parce que ces gens-là ont menti en direct à la télé en disant on n'a pas touché d'argent, etc. Et là, effectivement, Mediapart a quand même a rappelé que c'était pas le cas, qu'ils avaient menti. Et je pense que c'est seulement à ce moment-là qu'on a dit, bon, ben, monsieur Jacques Lang, vous allez devoir partir parce que c'est plus possible. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est fait. Donc, je ne crois pas que ce soit un lâchage qui était dès le début. Mais voilà. Sur la pédocriminalité, je suis un peu longue à répondre,
Non,
mais
non, je vous en prie.
sur la pédocriminalité, en revanche, là, c'est un autre sujet. Je pense que là, il y a quelque chose de très spécifique à la France, c'est-à-dire que la France a un gros problème avec ça. Et c'est un gros problème depuis assez longtemps. C'est-à-dire que ça date de ce qu'on appelait un petit peu l'époque de la French Theory, hein, où vous aviez tout un tas d'intellectuels, etc., des intellectuels que moi j'ai étudiés, hein, des gens comme Bourdieu, comme Roland Barthes, etc., qui étaient
Philosophe,
des
non?
gens, voilà, et qui sont pour moi encore, et c'est horrible à dire, mais je pense encore que ça restait des grands intellectuels, mais voilà, ce qu'on appelait un peu ce milieu, voilà, d'une gauche un peu, voilà, qui était dans la libération des mœurs, etc. Et dans cette partie de libération des mœurs, vous aviez des gens qui étaient des pédocriminels no notoires, dont Matzneff. Et je pense que, sachant que ce milieu un peu intellectuel d'une gauche bourgeoise est très, très implanté dans nos médias, dans un esprit médiatique, c'est-à-dire au sein de l'élite, on va dire l'élite, ce qu'on appelle l'élite médiatique. Alors quand je dis le mot élite, attention, hein, j'ai du mal avec le mot élite parce que l'élite, c'est quand même quelque chose de noble. Hein, alors que moi, je pense que ces gens ne sont pas
Oui,
nobles, justement.
vous, c'était pas dans le sens noble, oui.
Mais voilà, ce n'est pas du tout dans un sens noble, c'est dans le sens de gens qui se pensent comme des élites. Ce serait plutôt ça. L'affaire Epstein, pardon, elle montre tout ce côté-là, ce côté on se croit supérieur à tout, on se croit vraiment au-dessus des lois, et c'est ça qui est inquiétant. Et donc, dans les cas de pédocriminalité, il y a une vraie volonté d'étouffer ces faits-là. Et on le voit tous les jours avec des affaires de pédocriminalité qui sont terribles. L'aide sociale à l'enfance, ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance, c'est absolument terrible. Il y a il y a aussi des questions, et je me permets de le dire parce que je sais que c'est une radio libre ici, des questions qui se posent quand même sur tous ces mouvances autour de la... des lobbyings sur le transgenreisme, etc. Et alors attention, moi, vous me connaissez par exemple, vous savez un peu mes positions, que moi je suis quelqu'un qui, pour dire, à partir du moment où vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez de votre vie, de votre corps, je pense que voilà, et l'État n'a pas à s'en mêler, etc. Mais les enfants, on ne doit pas mêler les enfants à des choses, et vous avez même aujourd'hui, moi, des gens qui me suivent, qui sont des gens, par exemple, qui ont changé, qui ont voulu changer, en tout cas, de genre ou d'apparence, et qui combattent ces lobbies-là pour protéger les enfants parce qu'ils pensent que voilà, ils ont fait une réflexion différente. Et voilà. Et donc, ces gens-là, c'est terrible parce qu'ils se font, ils sont menacés de mort, hein, parce que ouais, il y a des choses affreuses. Et donc, je pense qu'il y a des vraies questions. C'est-à-dire que quand on nous dit de protéger les enfants, ce n'est pas du tout le cas. Et la pédocriminalité, il y a un vrai problème avec ça qui est spécifique à la France. Dans le cas de Jack Lang, ça fait très longtemps qu'il y a des questions qui se posent sur des liens qu'il a au Maroc. Moi, vous m'avez appelé Ismaili. Il faut savoir que je suis à moitié marocaine. Donc, je connais pas bien j'ai pas grandi au Maroc. J'ai grandi en France, hein, vraiment à la française, on va dire, si je peux me permettre. Mais voilà, j'ai quand même des liens avec le Maroc. Et au Maroc, c'est une question qui, Jacques Lang, il y a toujours eu ces questions-là. Ce qui est un fait avéré, c'est que là, malheureusement, il y a une vraie prostitution des enfants marocains. Il y a tout un trafic, et il y avait eu tout un trafic depuis longtemps avec des gens, des Parisiens, des milliardaires parisiens. Vous avez une affaire qui était sortie là-dessus, où on faisait venir des jeunes filles de 12 ans pour les prostituer à Paris. Enfin, voilà, il y a des choses affreuses. Et malheureusement, le Maroc est connu pour avoir toute cette pédocriminalité-là, même si l'État marocain, le royaume du Maroc tente de lutter contre ça. Il y a un vrai souci, malheureusement, avec ça. Et Jack Lang, il y a toujours eu des éléments qui tendent à penser que effectivement il aurait pu avoir des relations pédocriminelles. Est-ce que c'est malheureusement, est-ce que c'est pas avéré? Donc, mais ça mériterait une enquête. Et quand on a découvert, et je veux dire que parler de l'affaire Epstein sans citer tout le contexte qu'il y a derrière Jack Lang, c'est-à-dire l'affaire, comme vous l'avez dit très bien, l'affaire du Coral, qui était quand même une énorme affaire d'un trafic pédocriminel. Vous avez donc l'affaire Rosella Hightower, je crois, je ne retrouve plus le nom exact, qui en fait, effectivement, des rapports de renseignements généraux français. Hightower, merci. Des rapports de renseignements généraux français qui disent que des écoutes, parce que c'était une école canoise qui a fait du trafic pédocriminel, et dans les écoutes, il est apparu que Jack Lang était un parmi les clients de cette école-là. Vous avez évidemment tout le rapport à la Villa Marjolais, où on sait en fait au Maroc qu'il y a eu l'arrestation d'un ministre. Plus tard, on nous a dit que c'était Dousto Blasi. Dousto Blasi, je pense que ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais au départ, les liens allaient plutôt vers Jack Lang. C'était plutôt Jack Lang qui était pointé. Toutes ces affaires-là, elles ont été complètement étouffées. Est-ce que c'est une rumeur qui s'est amplifiée l'une sur l'autre? Est-ce qu'il y a eu un complot? C'est toujours possible, hein, parce qu'à un moment, on a dit ça, qu'il y avait un complot contre Jack Lang. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, tout est possible dans ce milieu-là. Donc, mais dans tous les cas, quand on apprend, avec une affaire aussi gravissime, en fait, ça fait des années qu'on aurait dû enquêter sur M. Lang, en tout cas, qu'il réponde à ces questions-là, ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce qu'on voit le pouvoir se protège entre eux. Et là, M. Jack Lang, de toute façon, une fois que l'opération... il faut sauver Jack Lang a échoué. Monsieur Jack Lang a 86 ans. Ça fait des années qu'il s'accroche à son poste d'Institut du monde arabe, qui, je pense, est convoité par beaucoup d'amis de Monsieur Macron. Bon, donc à un moment, il fallait qu'il parte, voilà. Mmh, mais on sait qu'il n'ira pas en prison. Emmanuel Macron vient de dire encore que l'affaire Epstein, ça ne concernait pas la France, ça concernait les États-Unis, ce qui renforce encore une fois, moi, mon idée que ce monsieur est complètement impliqué dans l'affaire Epstein, que je parle d'Emmanuel Macron, mmh. est complètement impliqué dans l'affaire Epstein. À quel niveau, pourquoi, je ne sais pas, mais je suis absolument persuadée de ça. Je ne vois pas pourquoi, s'il n'était vraiment pas impliqué, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une ouverture d'enquête. Une enquête comme ça, qui est aussi gravissime, où tous les autres pays ont commencé à ouvrir des enquêtes. C'est-à-dire que dans les autres pays, on a ouvert des enquêtes. Il y a eu des démissions qui ont été rapides, que ce soit au Royaume-Uni, voilà, ou dans d'autres pays européens, etc. Même en Israël, ils ont ouvert une enquête par rapport au lien entre Epstein et Mahmoud Barak et les questions par rapport au Mossad. Parce qu'il faut savoir qu'on nous parle toute la journée de dire que M. Epstein est un agent russe, hein, sur lequel il y a plein d'éléments dans ses mails qui montrent que c'est peu crédible. C'est toujours possible, mais c'est extrêmement peu crédible. Mais parce que, pour plein de raisons... Mais, en tout cas, dans les liens entre la question de poser est-ce que M. Epstein était en lien avec les services de renseignement israéliens, c'est une vraie question. Et il faut savoir qu'en Israël, la parole, c'est terrible, la parole est beaucoup plus libre sur ces sujets-là. C'est-à-dire que les Israéliens sont les premiers à questionner les actions du Mossad ou autre chose. Et c'est un peu comme aux États-Unis, les Américains peuvent être les premiers, ils sont les premiers souvent à critiquer les actions de la CIA. En France, Amélie, on a un vrai problème. Oui, pardon.
Amélie, je vous coupe parce que de toute façon, on se revoit la semaine prochaine.
Mais
je vous en prie. Je rappelle aux auditeurs qu'on fera un entretien mercredi prochain.
Oui, on peut.
On se retrouve la semaine prochaine avec vous pour un autre sujet et on reparlera aussi de ça, tout aussi passionnant. En tout cas, merci beaucoup, c'était comme d'habitude pertinent et je rappelle aux auditeurs de ne pas oublier de se rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Au revoir et à mercredi prochain avec Amélie Smiley.